Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est avec vous jusqu'à 15h. J'espère que vous avez trouvé un petit peu de frais pour nous regarder ou pour nous écouter. En tout cas, voilà, on est avec vous encore une heure. On espère vous divertir avec Charles Magnin, Jean-Philippe Doux, Fred Hermel et Emmanuel Dancourt. On va parler des réseaux sociaux dans un instant. Est-ce qu'on leur donne trop d'importance aux réseaux sociaux en ce qui concerne, tiens, les tendances culinaires ou encore l'aspect physique? Est-ce que vous suivez les tendances sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on en est esclave? Eh bien, vous nous appelez pour réagir 3216 et le WhatsApp d'Estelle Midi 06 12 424 424. On parlera fiesta dans le tu préfères faire la fête le vendredi soir ou le samedi soir? C'est la question qu'on va vous poser. RMC conso avec Sofiane Aklouf. On parlera de factures. Bah oui, ceux qui ont la clim sont très contents en ce moment, mais ils vont peut-être être moins contents dans une semaine lorsqu'ils vont recevoir leur facture mensuelle d'électricité. Et puis on terminera avec les immanquables, Charles.
Être un nepo baby, avoir des parents célèbres, est un vrai handicap dans la vie. C'est ce que dit Vanessa Paradis. Oh. On en parlera à 14h40. On parlera aussi de Donald Trump qui va soulever le trophée de la Coupe du Monde. C'est Gianni Infantino, le patron de la FIFA, qui l'a dit hier, qui l'a dévoilé. Et puis, peut-on siéger à l'Assemblée en polo et en short?
Bon, oui. Enfin, il faut bien couper.
Oh non. Ah bah les règles sont en train de s'assouplir. Il y a débat en ce moment à l'Assemblée. La veste, désormais, a disparu. En tout cas, la présidente l'a autorisé. Alors c'est climatisé dans l'hémicycle, mais pas forcément dans les couloirs, etc. Et donc certains députés se sont pointés en short et en polo. Ça scandalise Fred Hermel. On en parle à 14h40.
RMC Estelle Midi.
14h04 sur RMC, on poursuit Estelle Midi avec le carton du jour. Vous l'avez certainement vu, c'est celui de la banane isotherme Picard, sorti il y a une semaine. Cet accessoire est déjà en rupture de stock à cause d'un engouement relayé par les réseaux sociaux. Qu'on se le dise, aujourd'hui ce ne sont plus les stars de cinéma ou de la musique, mais les influenceurs et les kidam qui créent les tendances sur Instagram et sur TikTok. Mode, cuisine, aspect physique, mais ça peut aller encore plus loin, Charles.
Oui, les marques l'ont bien compris, hein, en misant désormais sur les influenceurs plutôt que sur des pages de pub traditionnelles dans les vieux médias que sont la télé, la radio, la presse écrite. Des collaborations commerciales avec des figures d'internet qui offrent un aspect émotionnel au public visé. On s'attache à une personnalité et donc aux produits qu'elle adopte, avec notamment la pratique de ce qu'on appelle le unboxing, des influenceurs qui déballent parfois en direct les produits, les cadeaux envoyés par des marques afin d'en vanter les mérites auprès de leurs abonnés. Mais les réseaux dictent aussi désormais les tendances physiques, notamment auprès des plus jeunes, une pression constante qui se vérifie dans les salles de sport. On n'a jamais vu autant de jeunes, que ce soit des hommes ou des femmes d'ailleurs, qui partagent leurs performances et les photos de l'évolution de leur corps sur les réseaux, sans parler des défis ou des régimes parfois extrêmement dangereux, mais présentés sous forme de challenge, hein, sur TikTok notamment. Enfin, les réseaux sociaux sont aussi désormais au cœur du débat public. La moindre petite phrase ou prise de position de la part d'une personnalité peut donner lieu à une vague d'indignation. Dernier exemple en date, la journaliste France Piron, mise à pied hein, par l'équipe, après avoir simplement donner son avis sur la présence des pères lors de l'accouchement. Aujourd'hui, chaque prise de parole est scrutée, disséquée et peut donner lieu jusqu'à des vagues de cyberharcèlement.
Alors, bad buzz, tendance culinaire, physique, est-ce qu'on donne trop d'importance aux réseaux sociaux? Est-ce que vous êtes très souvent sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous suivez les tendances, Emmanuel Dancourt?
Non, alors j'y suis moi pour une seule raison, parce qu'à la base, si je pouvais ne pas y être, ça me tranquilliserait. On se disait ça avec Fred tout à l'heure, on était fait pour naître au 19e siècle, nous. Donc voilà, j'ai beaucoup de mal, je n'y suis que pour une seule raison, c'est parce que c'est là qu'est né le mouvement MeToo. Sans réseaux sociaux, il n'y aurait jamais eu le mouvement MeToo. Balance ton porc est né sur les réseaux sociaux, le hashtag MeToo est né sur les réseaux sociaux, et de ce que j'en comprends de l'utilisation, c'est une sphère d'influence et de pouvoir, une sphère qui est devenue très commerciale aussi, comme le rappelait Charles, et je pense que les réseaux sociaux sont un petit peu faits avec la façon dont on les fait, nous, et ce qu'on vient y chercher. En plus, les algorithmes, après, ils nourrissent. Donc moi, je suis très nourrie sur ce qui m'intéresse. Des fois, je vois passer des trucs qui m'intéressent pas du tout en ce moment.
Je vois beaucoup de recettes au air fryer.
Alors moi, je vois beaucoup cette espèce de brosse qui aplatit les cheveux, là, le truc, là. T'as l'impression que c'est fait par l'IA et c'est sans doute ça. Et je me dis, pourquoi moi? Je ne sais pas. Et donc voilà, on vit dans la logique des algorithmes. Les algorithmes décident pour nous les tendances. L'histoire de la banane, alors là, je n'avais pas entendu
parler. Banane isotherme Picard,
je n'avais pas entendu parler. Puis c'est cette tendance-là. Puis bientôt, ce sera encore une autre tendance. Alors là, je suis tombée sur des tendances. C'est comment? C'est est-ce que Est-ce que les hétéros ou les homos vont bien? Vous êtes tombé là-dessus?
Non, pas du tout. Mais en tout cas, moi, je suis tombée sur une tendance avec la pilule qui est déconseillée aux jeunes filles. Et ça peut faire peur. C'est-à-dire qu'en fait, les réseaux sociaux. Alors, on peut en rigoler de la banane Picard, etc. Ouais. Mais quand vous avez une journaliste qui se fait écarter de sa chaîne parce qu'il y a eu une pression des réseaux sociaux, quand vous voyez qu'on déconseille la pilule aux jeunes filles, là, à un moment, on peut se poser la question de ce que sont devenus les réseaux sociaux.
Bien, et de ce qu'on en fait
il y a quelques années. Et qu'est-ce qu'on en fait
et
aussi?
Et de comment ils sont pas modérés du tout. Quasiment pas. Ça, c'est un énorme problème. Il y a très peu de législation sur les réseaux sociaux.
Fred Hermel, est-ce que vous avez déjà été influencé par les réseaux sociaux sur un achat ou sur une tendance?
Très bonne question. Alors moi, je suis très présent sur X et de plus en plus sur Instagram. Parce qu'Instagram, c'est beaucoup plus sympa.
Ouais, moi, j'aime bien ça.
Franchement, Instagram, moi, j'adore. D'accord.
C'est plus gentil, ouais.
Oui, c'est.
Et puis, c'est plus ouvert.
Et beaucoup de gens regardent, m'écrivent après l'émission, par exemple, sur mon compte, disant ah bah oui, t'as dit ça, vous avez dit ça, je suis d'accord avec vous. Et que ça. Parfois, en direct dans l'émission, au moment de la pub, je vois. Donc, c'est agréable. Après, moi, j'ai subi des campagnes de cyberharcèlement. Mais
oui, personne ne vous a viré. À RMC, ils ne sont pas dit, tiens, on va virer Fred Hermel parce qu'il y a une campagne de cyberharcèlement.
Non, bien sûr.
Est-ce que ça vous fait du mal? Ou est-ce que vous vous en fichez en disant je les connais pas, je m'en fous?
Parfois, il y a certains messages qui ont pu blesser, bien sûr. Bien sûr. Oui, quand ça touche la famille, j'ai eu des envies de meurtre par moment.
Ça faut pas dire ça.
Mais vous voyez, c'est une expression. Avoir des envies de meurtre en disant comme ça, si la personne est en face de moi, voilà, il y a des choses horribles qui ont été écrites. Mais horribles. C'est-à-dire des trucs qui relèvent de la loi, en fait. Donc, j'ai porté plainte plusieurs fois. J'ai menacé aussi. Bon, parfois les gens s'excusent, parfois pas. Mais ce qui est dingue, c'est que parfois vous avez des gens avec leur nom qui ont des positions sociales et qui écrivent avec leur nom, prénom, des trucs absolument horribles. Et ça leur est retombé dessus quand même.
Je préfère ça plutôt que l'anonymat.
C'est pour dire la folie des réseaux sociaux, c'est qu'il y a des gens qui ont des positions sociales et qui s'affichent, etc. Bon, il se trouve que après, j'ai vu passer un truc, le type qui avait ça, il n'a pas été invité dans une de nos émissions, par exemple. Il était prévu, celui-là. Je dis, il a eu de graves insultes contre moi il y a 2 jours. Il n'a pas été invité, finalement. Il n'a pas pu venir vendre son produit, son livre, je ne sais pas quoi. Donc, il y a des choses comme ça. Après, c'est un outil qui peut être démocratique aussi. Aujourd'hui, il y a, et c'est le grand drame, les réseaux sociaux ont pris le relais de nous, journalistes. Parce qu'il y a des thèmes, par exemple, qui sont arrivés dans la presse parce qu'ils ont des images sont d'abord sorties sur les réseaux sociaux.
Oui, bien sûr.
Ça décanasse aussi un peu la presse qui s'est un peu bourgeoisée. On sait tous un peu bourgeoisée. La presse classique est toujours devenue est quand même assez bien pensante. L'ensemble de la presse, la radio, télé, etc., fait très attention. Et donc ça permet d'informer aussi. Donc il y a du pour, il y a du contre, mais de toute façon. C'est là, on peut plus rien faire contre.
Pardon, juste excuse-moi Jean-Philippe, mais ça cadenasse aussi parce que ça nous enferme dans une idée du corps, par exemple, avec des comparaisons en permanence. Ça nous enferme. On parlait de cuisine, on peut se dire c'est léger la cuisine. Ça nous enferme dans un espèce de tendance mondiale culinaire. Alors en même temps, ça nous ouvre sur d'autres tendances et en même temps, ça nous enferme parce que les algorithmes nous enferment.
Oui, mais regarde, moi par exemple, avant-hier, je cherchais à faire une salade. Alors tu vas me dire, j'en avais marre. En fait, en ce moment, tout le monde mange des salades. Et en fait, il y a un moment où t'en as marre de manger
ça. Les mêmes.
Il y a une influenceuse, c'est Lulu Kitchen, qui doit avoir des millions de vues sur Instagram. Et je suis allée voir, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'elle fait comme salade? J'ai trouvé une salade, j'aurais jamais eu l'idée de faire ce truc-là. Il y avait de la harissa, il y avait du yaourt, c'était exceptionnel. J'ai adoré. Et je l'ai fait grâce à Instagram.
Bien sûr, le côté ouverture.
En fait, il y a plein de choses comme bien ça sûr. Où aujourd'hui, ça nous facilite la vie. Et tu l'as dit, MeToo, voilà, c'est un mouvement qui est arrivé sur les réseaux sociaux. Et tant mieux, et on s'en félicite. Parce que sinon, peut-être que MeToo n'aurait pas eu cette
ampleur. Connecte au monde.
Donc, voilà, exactement.
Mais, attention, ça nous enferme aussi. Je vais quand même redonner à la presse ses lettres de noblesse. MeToo, ça part aussi. Non, c'est une grande enquête du New York Times au départ sur Harvey Weinstein. C'est la presse.
Mais enfin, on l'aurait pas lu parce qu'on l'aurait pas acheté en kiosque.
Ensuite, non, mais les réseaux sociaux ont amplifié le mouvement, ont permis d'avoir. Il y a quand même une enquête journalistique.
Par exemple,
Le New York Times et le Washington Post, mais à la base, ça avait été lancé, d'ailleurs, bien avant MeToo par Tarama Burke, et c'est Alyssa Milano qui a quand même lancé le hashtag. Le côté mondial est venu d'Alyssa Milano et de ce hashtag.
Jean-Philippe Doux, est-ce que vous êtes influencé parfois par les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez déjà acheté quelque chose sur une pub Instagram, par exemple?
Alors, moi, non. Je sais que c'est très facile, il suffit de cliquer dessus. En revanche, je le vis à la maison avec mon fils de 11 ans, Charlie, qui...
Il a les réseaux sociaux ?
Oui.
Surtout, non ?
Oui, 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 il n'a pas de compte, mais il consulte avec le mien et ça lui apporte plein d'idées. En fait, donc c'est, on parlait de caisse de résonance, c'est comme un haut-parleur qu'on aurait posé sur un banc public et n'importe qui peut s'en servir. Alors il y a le négatif qui s'en sert et c'est horrible. Et puis il y a aussi le positif, il y a du créatif, c'est-à-dire que mon fils me demande parfois d'aller acheter des ingrédients parce qu'il a vu une recette, il a envie de la faire, on la fait ensemble et c'est cette créativité. Après moi aussi dans mon domaine, dans un de mes domaines qui est donc la librairie, c'est devenu prescripteur. C'est-à-dire qu'en fait, avant, c'était des grandes émissions de télé. Il y avait notamment Ruquier le samedi soir, ou toi, ce que tu fais, Fred, avec les podcasts sur la littérature, ce sont des prescripteurs donc qui donnent envie aux gens. Il y a la grande librairie aussi. Enfin, il y a plein d'autres.
Et ce sont les relais sur les réseaux sociaux qui ont un impact, qui donnent un impact aux podcasts littéraires.
Et je suis allé voir les chiffres. Oui, exactement. Et je suis allé voir les chiffres sur TikTok, notamment BookTok, près de 800 millions d'euros en 2020. Ont été générés juste parce que ces gens-là ont montré des livres. Donc ça peut être aussi du très bon. Ça peut être aussi du très bon, mais il faut pouvoir discerner. Et c'est ça, je pense que le grand enjeu aujourd'hui, c'est d'apprendre aux gens à discerner le bon du mauvais. Parce que tout est mélangé en fait. On peut tomber sur du très bon et juste en scrollant tomber sur du très mauvais.
Et après le danger, en fait, c'est que c'est très bien fait. C'est-à-dire que les pubs sur Instagram, mais jamais il y a deux ans, j'aurais penser à acheter un truc sur Instagram, sauf que les pubs elles sont tellement bien faites, elles sont tellement ciblées, je sais pas comment c'est possible, mais il y a pas longtemps je parlais d'une lampe, mais j'ai pas de prise, j'aimerais mettre une lampe sur ce mur là, trois secondes après j'avais une pub Instagram avec une lampe à coller sur un mur à 20 euros, et là j'ai commencé à regarder, j'ai dit mais c'est génial, bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé, alors que jamais je ne fais ça, et ben je l'ai commandée et en vrai elle est canon et jamais j'aurais trouvé ça dans un magasin classique.
Ça fait peur, et comment cette
ça
info
fait peur, mais en ça même temps peur, ça m'a franchement ça c'est génial cette lampe à 20 euros. Elle est parfaite, mais en même temps j'ai honte. Je me dis comment j'ai fait pour tomber là-dessus. Et encore une fois, je m'étais promis de ne jamais, mais jamais au grand jamais tomber comme ça. Je veux dire dans le piège de ces trucs attrape gogo.
Bah, j'y suis tombée.
C'est tellement simple. Et en plus le pire c'est que c'est bien. Et comme c'est pas des trucs qu'on trouve en magasin. Et comme bizarrement tu en as parlé une minute avant, donc t'es à fond dans le truc. Et tout d'un coup t'as la pub qui arrive. C'est très difficile d'y résister.
Non mais le plus troublant qui me soit arrivé, un jour je parle au téléphone avec quelqu'un d'un objet. Et quelques secondes après, on me le propose en pub sur Insta.
Ah ouais. Voilà.
Et là, tu te dis qu'on est écouté.
Alors, mais il paraît qu'on n'est pas écouté. Il paraît que c'est pas vrai. Donc,
c'est vrai. Oui, mais parce que là, c'est parce que c'est.
Bah, oui, ça arrive à tout le monde. Mais
alors, moi, par exemple, je sais que j'ai plein de propositions de resto. Il y a un resto argentin que j'ai découvert. Je suis allé parce qu'il y avait une pub sur Insta. Et, voilà. Et donc, et j'ai beaucoup aimé. Donc, j'en ai parlé. Et après, moi, je suis alimenté sur le resto.
Voilà.
Mais non, mais le resto est très jeune. Le resto est très chose.
Mais vous êtes tombé dedans. Comme moi. Voilà.
Mais si j'avais lu une critique dans un journal et que j'avais essayé ce resto.
Mais vous l'avez pas lu.
Voilà.
Ben, vous l'avez pas vu puisque vous avez.
Non, mais j'ai vu cette pub très bien faite sur Instagram. J'aurais pu être influencé par la critique dans un journal.
Mais vous avez été influencé par Instagram, donc voilà.
Mais c'est pas gênant.
La grosse différence des achats aujourd'hui, c'est que avant, on allait faire les magasins pour trouver des idées. Maintenant, on arrive dans le magasin, on a déjà l'idée. On sait déjà ce qu'on veut acheter.
Alors.
Ça fait réagir
Charles.
Jean-Luc qui nous dit bon, je crois que je suis un boomer, même si je n'ai que 49 ans, nous écrit Jean-Luc, mais je trouve ça dingue de se laisser influencé par les réseaux sociaux. Oui, on voit aussi que c'est un vrai fléau sur les jeunes. Ils n'ont pas forcément le recul pour être exposés à autant de marketing et d'influence aussi jeunes. Voilà ce qu'en pense Jean-Luc. Et puis Romain nous dit, moi, grâce à Insta, je trouve plein de bons conseils pour m'aider dans l'éducation de notre jeune enfant. Alors, c'est vrai qu'il y a à boire et à manger, mais il y a beaucoup d'idées, beaucoup de soutien, beaucoup d'astuces que se partagent les parents sur certains comptes Instagram, estime Romain.
Et notre invité sur ce débat, c'est Philippe Moati. Il est économiste et spécialiste dans les comportements de consommation. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Philippe, est-ce qu'aujourd'hui nous sommes nombreux à nous laisser influencer par les réseaux sociaux dans notre consommation ?
Apparemment oui, et comme ceux qui tiennent les rênes de la conso sont plutôt du côté des boomers, ça a été plutôt une surprise en réalité. C'était plutôt une surprise. Je vous donne un indice qui a quand même un peu traumatisé la profession. Circana, qui est un magazine qui mesure les marchés, a révélé quels avaient été les meilleurs lancements sur les trois premiers mois de 2025. Donc pour les produits de grande consommation. Donc il y aura pas Ninja, par exemple. Sur les 10 premiers, il y a 5 marques qui ont été lancées sur les réseaux sociaux. Vous les connaissez sans doute, moi je les connaissais pas, je dois l'avouer. Ciao Kabuncha, Mr. Beast, Fitable, Nelly, je refuse d'être, voilà. 5 sur 10. Et incroyable. Sur les 5, il y en a 2 qui sont des marques lancées par des influenceurs eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas maintenant de rameuter, d'orienter la demande vers des marques qui les payent plus ou moins pour ça. Ils ont conscience de la valeur de prescription qu'ils ont et ils lancent leur propre marque. Donc, Ciao Kabuncha, bah, c'est Squeezie. C'est un très, très grand YouTuber, visiblement, qui l'a lancé. MrBeast Feastable, c'est le numéro un sur YouTube au niveau mondial. Donc, on est en train d'assister à quelque part un changement de paradigme. La pub verticale, descendante, comme ça, ça marche de moins en moins, surtout sur les médias traditionnels. Ça a déjà basculé sur le numérique. Et dans le numérique, on préfère passer par des influenceurs. L'horizontalité, la sincérité du propos, les codes des réseaux sociaux que les jeunes te captent parfaitement, tout ça, c'est vachement plus efficace que la pub traditionnelle. Donc, on a une vraie mutation des marchés et on en découvre tous les jours. Ça va très, très vite. C'est viral.
Exactement.
Vous avez parlé d'InShape Nutrition. Là, c'est encore un phénomène incroyable.
Tout à fait.
Un très très peu de temps. Donc il y a des marques qui naissent sur Internet et qui y restent d'ailleurs, du coup, qui n'ont pas besoin de distribution. Et les super succès, du coup, les enseignes vont les chercher pour les mettre dans les rayons. Ça fait venir du monde. Voilà. Et car le phénomène Ninja, c'est le dernier en date. Là, c'est spectaculaire.
Oui, sur de l'électroménager. Justement, Philippe Moitier, est-ce que ça veut dire que les grandes marques aujourd'hui ou dans les mois à venir, elles n'auront plus intérêt à investir dans les médias traditionnels, mais uniquement sur les réseaux sociaux, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression, c'est tellement facile en un clic d'aller sur le site d'une marque, alors que c'est un peu plus difficile quand c'est sur un journal, par exemple.
C'est vrai. Oui, mais même si vous cliquez pas tout de suite, on pense à TikTok Shop en particulier. Là, l'écart entre le moment où on est désir et le moment où on réalise l'achat, il est réduit à zéro.
Ben voilà.
Mais même si, en fait, pour l'électroménager, on va peut-être aller chez Darty ou chez Boulanger, il y aura un petit temps d'attente, mais on aura créé l'envie sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'effectivement, c'est une tendance générale. Après, c'est une question de ciblage. C'est quand même une clientèle plutôt jeune qui se fait influencer, qui est soumise à la viralité des réseaux sociaux. Oui, un peu plus.
Les gens de mon âge.
Certains, ils sont plus sensibles que d'autres.
Nous, on a le pouvoir d'achat. Donc,
le pouvoir d'achat, eux aussi. Et puis n'oubliez pas la dérive démographique, c'est-à-dire que progressivement, c'est eux qui vont constituer le cœur des marchés de consommation. Et puis n'oubliez pas aussi la capacité qu'ont les marques via les réseaux sociaux de cibler. Donc on va adopter un ton qui est adapté aux jeunes, très très rapide, etc. Et on adoptera un autre ton pour toucher d'autres personnes, parce que la force des réseaux sociaux, c'est de l'hyper-ciblage. C'est hyper précis, là où les médias traditionnels ils utilisent un marteau pour écraser une mouche.
Et qu'est-ce qu'on achète le plus via les réseaux sociaux, Philippe Moitier? Est-ce que c'est de l'électroménager, des choses culinaires?
Oui, c'est l'alimentation et la mode. Chine, sans les réseaux sociaux, ça n'aurait pas existé. Donc une capacité à écouter d'abord ce qui se dit pour choper des tendances, et ensuite en retour à envoyer de manière extrêmement pertinente et ciblée les produits qui vont marcher. Et pour que c'est être sûr que ça marche, alors des fois ça marche tout seul. Action, par exemple, ça marche tout seul. Il y a tellement de gens qui sont contents de montrer ce qu'ils ont trouvé chez Action,
c'est
pas besoin de les payer.
Mais sinon, j'adore ces trucs-là.
On les paye, soit on les paye eux directement, mais c'est pas le gros des budgets, soit une fois qu'ils ont fait leur poste, on va faire de la pub pour que ces postes soient diffusés le plus largement possible, de manière très ciblée, pour amorcer la viralité.
Et en plus, on peut même pas acheter sur Internet, sur Action, donc en fait, on est obligé d'aller en magasin physique, et pourtant ça marche. Merci beaucoup, Philippe Moati, d'avoir été avec nous. Vous avez un compte réseau social, Philippe Moati? Il est parti.
Il est là.
Alors, et vous aussi, vous êtes sur les réseaux, Philippe Moitié, ou pas du tout?
Oui, mais pour ma passion qui est la musique, donc rien à voir.
Ah oui, donc ça n'a rien à voir, ils ne vont rien. Merci beaucoup. mais il nous a donné son savoir gratuitement. Oui. Merci Philippe Moati. On termine avec des messages.
Oui, Thomas qui nous dit, mais les réseaux sociaux, moi je trouve ça très bien, j'y passe beaucoup de temps, mais il faut être assez malin, ne pas se laisser avoir par le contenu, comprendre ce que nous propose l'algorithme et bien faire la distinction entre le bon contenu et la publicité. Et c'est vrai, nous dit Thomas, que c'est beaucoup plus flou sur Internet, la distinction, contrairement à la télé par exemple, où on voit bien une page de pub et le programme. Sur Internet, la frontière est parfois beaucoup plus floue, nous dit Thomas. Joël nous dit, mais on influence que les influençables. Ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas influencer. Moi, je résiste, nous dit Joël. Et puis, Samy qui nous dit, ça y est, je suis Fred Hermel sur Instagram. Je vais me laisser influencer.
En mangeant des pistaches.
Oui.
Non, ça, c'est un autre truc.
Ça, c'est Julia qui nous dit, je suis très influençable. Je ne mange plus que des pistaches depuis 3 semaines.
Elle a bien raison.
Julia. Alors, les bad buzz, les tendances culinaires, le physique, est-ce qu'on donne trop d'importance aux réseaux sociaux? Vous avez répondu oui à 92%.
Ah oui. C'est une très large majorité. Allez, il est 14h22, c'est l'heure du tu préfères dans Estelle Midi.
Ça m'a échappé de ce dépistage.
Estelle Midi, tu préfères.
C'est un tu préfères fiesta aujourd'hui. Tu préfères faire la fête le vendredi soir ou le samedi soir, Emmanuel Dancourt? Une musique bien de votre âge, là.
C'est vrai. On a dansé là-dessus.
Oui, Thierry Hazard.
Non, mais alors moi, je suis vraiment celle qui douche l'ambiance, quoi. J'aime pas faire les soldes et j'aime pas faire la fête.
Mais excusez-moi, Emma, vous aimez quoi?
J'aime lire, j'aime écrire, j'aime réfléchir.
On va appeler Augustin Trappenard.
Exactement.
Boring.
Mais si je devais choisir. Non, très peu. Cela dit, c'est les 20 ans de mes jumeaux vendredi.
Ah.
Et donc, à choisir, bah, vendredi soir, quoi.
Excusez-moi,
voilà.
Mais quand vous faites quand vous sortez, vous faites quoi? Vous ne dansez pas?
Je vais dans les musées. Non. Ah, je suis pas une grosse danseuse. Je suis avec un excellent danseur. Oui. Je suis pas une grosse fiesta. Je bois pas d'alcool. Ça va vite m'ennuyer. Très, très vite m'ennuyer, ce genre d'interaction sociale. Donc, je vais danser une demi-heure. Ah oui, mais c'est vrai, c'est
Emma,
vrai.
Elle est précieuse en soirée parce que c'est elle qui nous ramène.
Exactement. Je suis Sam. À choisir peut-être le vendredi soir pour avoir le week-end tranquille derrière. Voilà, pour récupérer.
Fred Hermel, on sort quel jour chez vous?
Je ne sors plus parce que je travaille tôt le matin le week-end.
Ah bah oui, c'est vrai. Oui.
Mais en fait, quand j'étais à Madrid, je sortais le vendredi parce qu'il n'y avait pas de match le vendredi.
Ah.
Donc je devais bosser le samedi et le dimanche, mais donc c'était vraiment le vendredi.
De ce qu'on m'a dit, vous sortiez très tard, donc vous auriez pu sortir à Palais.
Oui, mais j'ai fou. Non.
Pas ou très tôt.
Oui, très tôt, non, mais il fallait quand même. Bon, après, le match est à 22h le samedi soir, donc on sort le samedi, ça va. Non, mais c'était. Moi, j'aimais beaucoup le samedi, mais. Ce qui était très classe à Madrid, c'était de sortir le jeudi, le dimanche.
Ah bon, pourquoi?
Les gens très classe sortaient. Parce que tu sortais en dehors de la masse.
Ah.
Les gens les plus chics sortaient le jeudi et le dimanche soir. Mmh. Et donc j'ai parfois fait sortir le dimanche soir. C'est vrai que c'était une autre ambiance, etc. Mais le samedi, il y a trop de monde. Non, mais vendredi, moi j'aime bien. Puis après, ce qui est bien dans un week-end normal, quand tu sors le vendredi, c'est après que t'as deux jours pour t'en remettre, quoi. Plus tu avances dans l'âge.
Plus tu avances en âge.
En âge, plus tu.
C'est ça.
Tu,
voilà. Et plus tu sors le vendredi, et plus surtout tu rentres tôt.
Oui. En même temps, quand le vendredi t'es rentré à 1h, c'est ouh.
Ah bah c'est vraiment moche.
En France, on sort aussi le jeudi soir, et notamment c'est les étudiants qui ont lancé ça,
oui,
parce que le vendredi ils repartent chez eux, etc. Donc c'est le jeudi soir. Moi c'est plutôt le samedi soir parce que le vendredi soir il y a toujours quelqu'un qui travaille le lendemain dans le groupe quand on fait avec un groupe de potes, il y en a toujours qui disent bah moi je bosse demain, j'ai des copains commerçants.
Et donc
c'est plutôt le samedi soir parce qu'on généralement le lendemain tout le monde peut se lever un peu tard, donc on fait plus la fête le samedi soir. Ouais.
Et vous Charles Magnin, c'est tous les jours?
Oui, évidemment. C'est matin, midi et soir même.
Bien sûr.
Non, j'aime bien le vendredi aussi parce qu'on a hâte après une longue semaine de travail.
C'est ça.
Et j'aime pas attendre à la fin du boulot.
Vite
la fête. Voilà, on va pas attendre jusqu'à samedi soir pour faire la fête. Donc et puis bon, j'allais répondre les deux, mais on peut pas. C'est le principe du tu préfères.
Bah oui, Charles, enfin.
Et toi, Estelle?
Le vendredi soir.
Bah oui.
Bah oui, parce que comme ça, bon, bah, le samedi matin, je m'en remets et le dimanche, je peux aller courir. Parce que si on sort le samedi, fait, tout le week-end est foutu. C'est-à-dire qu'on peut pas aller courir et tout. Donc,
j'aime bien le samedi.
Et j'ai l'impression de profiter de mon week-end, en fait.
Exactement.
Donc, c'est plutôt pas mal.
Et quand on vous pose la question sur nos réseaux, il y a un vrai dilemme, mais c'est le vendredi soir qui l'emporte d'une très courte tête à 54%.
Dans un instant, RMC Conso avec Sofiane Aklouf. En ce moment, tous ceux qui ont la clim pavoise et sont heureux, mais ils seront peut-être moins contents quand ils vont recevoir leur facture d'électricité. Pareil pour tous ceux qui ont des gros appareils électroménagers, la facture risque de monter, mais de combien? Eh bien, Sofiane Aklouf nous dira tout ça dans un instant. RMC Conso, à tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
14h31, vous êtes sur RMC, RMC Story, dans Estelle Midi. Et tout de suite, on parle facture d'électricité, on parle pouvoir d'achat avec Sofiane Aklouf dans RMC Conso.
Estelle Midi,
RMC Conso.
Et oui, Sofiane, on parle beaucoup de climatisation dans Estelle Midi. Et c'est vrai que les Français qui ont la clim sont extrêmement contents en ce moment. Bah, ils le seront peut-être un petit peu moins quand les factures vont tomber.
Oui, parce que les prix de marché là sur l'électricité sont au plus haut depuis 3 ans. On a atteint un nouveau sommet hier avec beaucoup de volatilité. En fait, c'est assez hallucinant quand on regarde les courbes. On passe de quasiment 10 euros le mégawattheure à 300 juste après. En fait, à 18h, quand tout le monde rentre à la maison, eh ben là, les marchés s'affolent. Il y a un peu de volatilité, évidemment, parce que c'est des marchés de gros, donc certains s'en mettent un peu dans les poches, vous imaginez.
Mais on prend combien de kilowattheures
En fait, le problème, c'est qu'on tire, effectivement. On a plus 10 à plus 15% de consommation par rapport à d'habitude, en moyenne, à cause de la climatisation. C'est bien le problème. Et là, une journée de canicule, ça fait, en fait, l'équivalent de 3 à 5 réacteurs nucléaires supplémentaires au niveau de la France. Donc évidemment, c'est assez énorme comme consommation. Et donc, ça va se voir, malheureusement.
Ça veut dire que nos factures vont exploser, mais de combien ?
Alors, à court terme, non, il n'y a pas une panique. À la fin de l'été, on ne va pas avoir une facture démentielle parce que, heureusement, la plupart des Français sont au tarif réglementé ou sur des contrats à prix fixe, en tout cas fixés plusieurs mois à l'avance. Donc, ça va se voir avec un effet retard. C'est pas pour tout de suite. C'est la même chose pour les entreprises. Parce que là, les fournisseurs achètent l'essentiel de leur électricité en avance. Parfois, on est à 1 ou 2 ans avant la livraison. Mais malgré tout, tout ça dépend un peu de la durée de la canicule. Et tous les jours, on nous dit, ça va durer encore un peu plus longtemps. Donc finalement, c'est des kilowattheures et des kilowattheures qui vont tourner. Et puis du nombre de canicules dans l'année. C'est-à-dire que s'il y en a d'autres en juillet ou en août, là, ça va commencer à être un peu compliqué. Parce que le problème, c'est pas tant finalement le prix du kilowattheure, que notre consommation, évidemment. Puisqu'elle est démultipliée, le prix de la facture, à la fin, va être démultiplié. C'est bien le problème.
Ouais, la consommation de la clim, par exemple. Ça coûte combien une nuit de climatisation dans un logement?
Alors, j'ai l'impression d'avoir repassé le bac de maths tout à l'heure.
Je suis en train de regarder mes factures, là. Je suis à plus 21% par rapport à mes derniers.
Ce qui est pernicieux, c'est que quand on prend au jour, à la journée, c'est pas tant que ça. On est entre 2 et 4 euros pour une nuit complète de 8 heures, j'ai regardé. Ça dépend un peu de la puissance de l'appareil. Ça va. Mais sur une journée entière, si vous êtes notamment en télétravail ou que vous êtes le week-end avec les enfants, là, on passe à 7 à 10 euros la journée pour la journée complète. Et donc, dans un logement mal isolé, là, ça peut monter, on peut être autour d'une centaine d'euros par mois. Et là, évidemment, ça devient beaucoup plus compliqué pour la facture.
Il y a le ventilateur qui reste quand même moins cher. Ceux qui font attention à leur facture.
J'ai essayé de comparer un ventilateur classique utilisé 12 heures par jour, c'est 12 centimes en moyenne par jour. Donc là, évidemment, ça n'a rien à voir. 3 à 4 euros pour le mois. L'ADEME estime même que son utilisation revient à moins 10 euros pour tout l'été. Donc là, évidemment, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. C'est l'équipement le plus rentable contre la chaleur, mais je sais ce que vous allez me dire, c'est quand même nettement moins efficace que la clim. Et oui, le problème, c'est qu'entre les deux, c'est aussi une question de pouvoir d'achat et d'efficacité, il faut trancher.
Alors, on sait qu'il y a les pannes électriques en ce moment dans le Finistère, par exemple. Est-ce que ça peut jouer sur la facture?
Oui, ça va jouer. Et non seulement ça va jouer, là, la question de climatiseur ou pas, ou ventilateur, là c'est pour tout le monde pareil et tout le monde va en prendre pour la facture. Parce qu'il faut avoir conscience qu'il y a 15 000 km de réseau sous terre qui sont très anciens et qu'il faut rénover. Quand il fait 40 sur le bitume, c'est 80 en dessous. Voilà, vous avez une idée de ce à quoi ça correspond. Et dans les grandes villes comme Paris, Lyon, Marseille, le réseau il est très mauvais. C'est la même chose pour les lignes aériennes, vous voyez, entre les deux pylônes. En fait, à cause de la canicule, ils sont en train de s'affaisser, le métal s'affaisse un peu, il y a un risque que ça s'écroule. Et en fait, c'est à cause de ça, notamment, qu'il y a des coupures de courant. Et en fait, il faut des investissements colossaux. On parle quand même de 100 milliards d'euros d'ici 2040. Autant vous dire que, on n'a pas l'argent, l'État n'a pas l'argent.
C'est sûr.
Et puis finalement, qui va payer? Je vous laisse deviner, c'est nous. Évidemment. Et puis, il y a un autre problème, c'est que la production, elle est en baisse, justement. Le nucléaire, effectivement, ça marche très bien et ça nous permet d'avoir des factures d'électricité très maîtrisées. Le problème, c'est que là, on a un réacteur qui a été arrêté parce que la Garonne, elle dépassait les 29 degrés. En fait, il y a des
29 degrés, la Garonne.
29 degrés, c'est le problème.
Elle peut refroidir, alors.
À ce moment-là, tous ces cours d'eau, ils sont censés refroidir les réacteurs nucléaires. Et le problème, c'est que quand l'eau devient trop chaude, on arrête les réacteurs et donc on arrête la production. Donc, si on a moins de réacteurs, ça veut dire qu'à un moment donné, on a moins de production et donc que la facture va augmenter. Mais on pourrait se dire,
Il y a du renouvelable.
Voilà, il y a du renouvelable, on va s'en sortir. Les éoliennes, il n'y a pas de vent en ce moment avec la canicule.
C'est quand on a besoin d'électricité qu'il y a des anticyclones et que l'éolien ne fonctionne pas.
L'hydraulique, c'est pareil, l'énergie hydraulique. Il n'y a plus d'eau, donc évidemment, ça ne marche pas. Et puis même les panneaux solaires, on se dit, ça va.
C'est génial, là, il y a du soleil.
Le problème, c'est qu'en fait, les panneaux solaires, ils n'aiment pas la chaleur.
Ah, c'est dommage.
Ça marche moins bien.
Dommage.
En fait, ils aiment beaucoup le soleil, donc ça marche très bien.
La lumière,
ça permet effectivement de faire fonctionner les électrons et crée un courant. Sauf que le problème dans ces cas-là, quand il fait trop chaud, ça marche moins bien sur les joints, les panneaux fonctionnent moins bien et donc on produit moins. Donc même sur les panneaux solaires, on est en train de baisser la capacité de production. Donc
et le charbon, ça va?
Le charbon, alors on l'a pas rouvert, mais on l'a fait effectivement pour l'hiver. En revanche, on est remonté sur le gaz. On passe à 18h quand je regarde en direct sur RTE notre consommation. On est à 7.
Vous avez des belles soirées, vous.
Bah oui, c'est génial. Et j'actualise.
Qu'est-ce que vous avez regardé ce soir?
J'ai regardé les prix de RTE. Carnet pour du gaz.
Bah oui. Et on a entre 7 et 8%
de production. Je regarde vite
fait RTE. C'est la bonne excuse, justement, pour pas se manger. Et bah là, évidemment, avec le gaz, c'est pas comme avec le renouvelable ou avec le nucléaire.
Mais le gaz, ça coûte cher.
Et voilà. Et donc, le résultat, c'est que nos factures vont augmenter.
C'est le moment de parler de voiture électrique, peut-être, Estelle, non?
Pourquoi?
Non, parce que ça va coûter de plus en plus cher de recharger les voitures.
Ah oui, bon, enfin, ça coûtera toujours moins cher que le pétrole. Merci beaucoup, en tout cas, Sofiane Aklouf, pour toutes ces mauvaises nouvelles. Vraiment, merci d'être venu. C'était super sympa. On parle de quoi demain?
Vous verrez, parce que c'est Charlotte qui revient demain.
Mais tout à fait. Écoutez, c'est super. Merci beaucoup, Sofiane. Merci pour ces 3 jours de chronique RMC Conso tous les jours, 14h30 dans Estelle Midi. Et si vous voulez réécouter cette chronique, bien sûr, les podcasts rmc.fr, l'appli RMC et toutes les plateformes de téléchargement. Et tout de suite, on joue sur RMC.
Mais oui, c'est le moment de jouer pour gagner votre prime de match. Vous savez qu'on rajoute 500 euros par but marqué pendant la Coupe du Monde. Les matchs de la nuit ont fait grimper notre prime de match actuellement à 40 000 euros. Retenez bien le montant. À tout moment, on peut vous appeler. Si vous donnez le bon montant de la prime, et vous la remportez. Vous envoyez dès maintenant but par SMS au 732-16. But au 732-16. Vous avez 10 minutes pour vous inscrire. Il est 14h38, donc jusqu'à 48. Vous pouvez vous inscrire et remporter 40 000 euros. Bonne chance à tous.
Dans un instant, les immanquables de Charles, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. À tout de suite dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis. 14h42, vous êtes sur RMC, RMC Story dans Estelle Midi. J'espère que vous y êtes bien. Voici tout de suite les immanquables de Charles Magnan.
RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Et on commence, Charles, avec la tenue du jour.
La tenue des députés en période de canicule. Yaël Braun-Pivet a décidé d'assouplir le règlement intérieur du Palais Bourbon pour permettre aux députés de siéger sans être trop incommodés par la chaleur. Elle a levé l'obligation faite aux hommes de porter la veste et la cravate, y compris dans l'hémicycle. Mais certains voudraient aller plus loin. C'est le cas du député socialiste Arthur Delaporte qui est apparu hier en polo dans les couloirs de l'Assemblée. Je suis pour qu'on autorise le polo short dans l'hémicycle, a-t-il dit sur BFM TV.
Et je sais que Fred, ça vous scandalise.
Mais fais pas ce métier, quoi. Enfin, tu représentes les Français, quoi.
Il fait pas ce métier pour
ce métier. Non, mais je suis désolé. Enfin, l'Assemblée nationale, c'est un lieu symbolique. Enfin, je veux dire, c'est là où on fait les lois. Ils représentent les Français, les députés, ils sont élus. Donc, quand t'es élu, t'as certaines obligations. Non, t'es pas en short, t'es en polo dans l'Assemblée nationale. Ou dans ce cas-là, tu vas pas travailler dans un endroit aussi majestueux. On va te mettre dans un préfabriqué. On s'en fiche dans ce cas-là. Non, il faut que la tenue soit en accord avec le lieu prestigieux. Si c'est si beau, si prestigieux, c'est parce que ça a un sens symbolique. Il faut être en accord, je suis désolé.
Vous pouvez avoir des très beaux shorts en lin chemisette.
Non, excuse-moi, tu ne discutes pas de la loi sur l'euthanasie en short, je suis désolé.
Oui, mais tu ne discutes pas d'une loi sur l'euthanasie s'il fait 45 degrés.
Je suis désolé. C'est climatisé à l'intérieur de l'hémicycle. Donc après, tu t'es en veste, s'il fait chaud dans les couloirs, tu l'enlèves dans ton bureau, ce que tu veux. Mais voilà, moi, j'ai élu un député. En l'occurrence, c'est une qui est députée de ma circonscription. Mais cette personne me représente.
Donc, mais nous, les femmes, on n'a pas ce problème, elle peut arriver quand même. Votre élu, elle peut arriver quand même.
Désolé, ça fait partie des inconvénients d'être un homme. Tant pis, il faut l'assumer.
On leur a quand même beaucoup reproché de porter des robes. Au début, les femmes s'habillaient comme des hommes, parce que c'était comme ça que ça le passait mieux. Moi, j'avoue que je suis pas choquée par le fait de doter la veste et la cravate. J'avoue que le polo et le short, ça me met pas à l'aise parce que c'est peut-être surprenant, mais ça me met pas à l'aise parce que nous, en entreprise, d'une manière générale, c'est vrai que le polo passe très bien, le short, ça dépend où on travaille, mais d'une manière générale, passe pas très bien non plus. Enfin, pourquoi il pourrait Charles, il dit non, elle a tort.
Les mœurs sont changées un petit peu.
Non, mais les mœurs sont changées. Attendez, les
amis, c'est le climat qui a changé. Là, on est au débat du 20e siècle.
C'est climatisé.
Il faut s'y rendre à l'Assemblée.
Ils mettent une tenue dans leur sac à dos.
Ils ont des bureaux, ils ont des vestiaires.
Donc, ils y vont en short et ils mettent le pantalon.
Ils leur veste pour aller. Quand tu vas voter la loi.
Voilà, quand tu es dans l'hémicycle de cette partie qui est filmée notamment, moi, je trouve qu'il faut une représentativité, comme le disait Fred, pour l'important. importance de ce que tu es en train de faire. Après, quand tu es dans ton bureau, pour avoir vu quelques bureaux de l'Assemblée nationale, c'est des placards.
C'est horrible.
C'est horrible. C'est alors là, qu'ils soient en short et t-shirt, si okay. les assistants et assistants parlementaires.
Dans l'hémicycle, ils sont dit.
Mais bien sûr.
Au moment où ils votent à loi de l'Assemblée, au moment où ils rentrent en commission, par exemple, c'est des grandes salles de réunion qui sont filmées.
Dès lors que c'est filmé, les salles de commission.
Alors quand c'est filmé, pantalon.
Non, mais même. Quand c'est pas filmé, peu importe, c'est climatisé ces salles-là. J'y suis allée assez souvent. Donc quand tu es en représentation, tu représentes les Français, les Françaises.
Et les Français, ils sont en short aujourd'hui.
Après, oui, non, mais, oui, mais, bien sûr, mais ils ne sont pas en train de voter des lois sur l'euthanasie. Ou la fin de vie, en tout cas. Donc voilà. Donc, et par contre, quand ils sont dans leur bureau, alors là, moi, je comprends qu'ils se mettent en short parce que là, pour le coup, il fait très, très chaud.
Et il y a plein, de boulots où il y a un uniforme. Et en fait, quand vous arrivez au restaurant, par exemple, une tenue. Bah, vous arrivez en short et en t-shirt au restaurant, vous allez au vestiaire, vous changez. Et quand vous êtes, avec les clients, bah, vous êtes bien sapé. Et là, pour le coup, l'Assemblée.
En tant que client, j'ai envie que le serveur, il transpire pas dans un pantalon ou avec une veste. J'ai envie qu'on habille le serveur dans une tenue plus.
T'as vu les serveurs à Paris? Ça, c'est vraiment très Paris. Ils ont toujours cette même tenue noire et blanche qui est très classe. Ils crèvent de chaud en ce moment sur les terrasses.
Moi, je préfère qu'ils crèvent pas de chaud, qu'ils soient en short et en polo.
Mais ils sont pas en train de voter des lois, donc on pourrait leur
rendre. Ce que Charles disait là à l'instant, c'est qu'en effet, ça change. C'est-à-dire qu'on est dans un nouveau temps climatique. Regardez dans tous les pays chauds, les uniformes de gendarmes, de soldats, il y a une tenue short et chemisette. Moi, alors, on en a parlé hier soir, je vous ai demandé la permission et je suis venu aujourd'hui en short et en t-shirt. Et je trouve que ce qu'on fait, nous, pendant 3 heures, on est proche des gens. C'est-à-dire qu'on parle de l'actualité concernante. On est au maximum avec les gens dans leur temporalité. Alors que, à l'Assemblée, on est hors du temps. Et que, c'est vrai que si on a des images, si une grande loi se vote aujourd'hui et qu'on a des images de députés en Bermuda, alors qu'on ne sera plus dans cette temporalité-là parce qu'on est au-dessus du temps, on est en dehors du temps, ben je trouve que ce serait gênant. C'est pour ça qu'en effet, il faut garder un certain uniforme. Souvenez-vous, quand les LFI sont arrivés à l'Assemblée il y a quelques années et qu'ils ont dit, bah, nous, on met pas de cravate, ça a fait un tollé. Parce que, en effet, on tient à ce qu'il y ait cette représentativité, et cette solennité.
Et souvenez-vous de la canicule de 2003 avec le ministre de la Santé de l'époque qui était arrivé en chemisette et ça avait fait un tollé. En polo. Voilà. Et effectivement, le fait qu'il soit arrivé en polo avec.
Il était en vacances.
Oui, c'est ça. Et donc là, pour le coup, c'était très très mal passé.
Simplement, une petite phrase. T'imagines les lois qui ont marqué l'histoire. T'imagines les images de l'abolition de la peine de mort et on aurait des mecs en polo et en short. Non mais t'imagines,
ça fait pas sérieux.
Mais peut-être que dans 30 ans, on voit ça parfaitement normal.
Ou pas.
La mesure du jour.
Aller chez le kiné sans passer par la case généraliste. Cette mesure pourrait faire économiser 14 milliards d'euros. Conclusion d'une étude réalisée par l'économiste Frédéric Bizard. Selon ce rapport, le fait d'aller directement chez le kiné permettrait de faire plus de prévention, d'éviter des arrêts maladie, de réduire les risques de chute. Chez les seniors, les chutes représentent 90% des accidents de la vie courante aux urgences pour les plus de 75 ans. S'ils pouvaient aller directement chez le kiné, il y aurait plus de prévention. Rappelons que quasiment la moitié des actes de kinésithérapie en France concerne les plus de 65 ans. C'est déjà expérimenté, cet accès direct au kiné dans quelques départements depuis 2023. Ce rapport propose de le généraliser tout le temps, partout, à toute la France.
Emmanuel Dancourt, est-ce que vous y êtes favorable à aller chez le kiné sans passer par le généraliste?
Ah, j'adore, mais j'adore cette idée. Déjà, on va chez le gynéco sans passer par le généraliste, chez le pneumo, chez l'ortho.
Chez le pneumo, je ne suis pas sûre du tout.
L'ophtalmo.
Ah, moi, j'y vais chez l'ophtalmo, le pneumo, moi, j'y vais comme
mais
ça.
Mais parce que ça se trouve, tu payes et tu ne le sais pas.
Ah ben peut-être. Chez l'ophtalmo, enfin il y a déjà tellement de hauts où on y va tout seul, et je trouve que ça déchargerait en plus les médecins généralistes. Je comprends la cohérence de vouloir repasser par le médecin généraliste parce qu'il gère ton dossier machin. Moi, mon médecin généraliste, je suis pas sûre qu'il gère beaucoup. Mais on gagnerait beaucoup d'argent, on gagnerait du temps, on laisserait les médecins généralistes à ceux et celles qui en ont vraiment besoin. Et puis eux, ça les déchargerait, ils croulent sous la tâche, et on a du mal à trouver des créneaux dans certains endroits. Je trouve qu'il y a que des avantages à cette proposition. Je ne vois pas quel pourrait être le désavantage d'une proposition pareille. J'adorerais avoir direct accès à ma kiné, quoi.
Frédéric Mel.
Oui, bien sûr. Après, il ne faudrait pas qu'il y ait de dérive non plus. Voilà, parce que par moment, tu vas avoir un spécialiste, et parfois il y a du temps, alors que tu n'as pas besoin d'avoir un spécialiste. Ton généraliste, voire ton pharmacien aurait suffi. Voilà. Donc parfois, si c'est pour des choses, je vais dire, très mécaniques, facilement repérables. En gros, tu as mal au genou. Voilà, tu vois ce que je veux dire.
Oui, mais peut-être que tu as mal au genou à cause d'autre chose et que le kiné ne serait pas le kiné ne pourra pas détecter.
Il y a peut-être une tumeur, il y a peut-être un truc. Je sais que c'est pour ça que c'est compliqué. C'est compliqué. Sur l'idée, oui, il faut faire des économies, mais pas au détriment de la santé.
Voilà. Et oui, pour le kiné, mais non pour les spécialistes. Parce que là, attention, un kiné, c'est pas un médecin spécialiste, hein. Il est pas médecin. Il a été formé pour être kiné, pas pour être, c'est pas un médecin. Donc oui, pour ce genre d'acte, mais attention aussi que le kiné, ait quand même la sensibilité pour pouvoir renvoyer vers un médecin généraliste s'il trouve quelque chose qui lui paraît bizarre.
Et aujourd'hui, tu peux aller voir, pas forcément le kiné, mais un médecin spécialiste. En fait, c'est juste que tu seras moins bien remboursé, mais tu peux y aller, tu peux aller direct voir ton ORL.
C'est
mais
le remboursement.
Tu seras moins remboursé, mais tu as cet accès.
C'est le parcours de soins.
Exactement.
Ça, en France, le principe avec la Sécu, c'est le généraliste qui centralise et qui ensuite vous oriente vers un spécialiste.
Enfin, ce qui est fou, c'est que ça pourrait nous faire gagner 14 milliards d'euros.
C'est énorme.
Au moment où on cherche de l'argent, effectivement, ça pourrait être appréciable. Et puis, on termine avec le trophée du jour.
Le trophée de la Coupe du Monde qui sera potentiellement remis au vainqueur par Donald Trump. C'est Gianni Infantino, le patron de la FIFA, qui l'a annoncé sur Fox News hier lors d'une interview. Je serai avec Donald Trump pour assister à la finale et évidemment remettre le trophée au vainqueur ensemble. Nous sommes toujours ensemble, dit-il. Cette déclaration pourrait donc bousculer le protocole habituel de la finale. Selon le protocole habituel de la FIFA, lors de la victoire d'une équipe à la Coupe du Monde, c'est le capitaine de l'équipe victorieuse qui soulève lui-même le trophée placé sur un piédestal et que personne, en théorie, ne touche avant lui. Potentiellement, Donald Trump l'avait déjà fait lors de la Coupe du Monde des clubs organisée l'été dernier. Il pourrait remettre en main propre, on va le dire comme ça, le trophée au vainqueur.
Ça vous choque, Frédéric Mal ?
Non, pas tant que ça. Pas tant que ça. Enfin, c'est le pays organisateur, quoi. Enfin, je veux dire, si ça se passait en France, Coupe du Monde en France, je serais content.
Oui,
ça
c'est pas fait. Hein. Macron, oui,
non, mais je te dis, j'aimerais que le président de la République, représentant élu de tous les Français, soit celui qui remette, puisqu'à partir du moment où le pays investit dans des stades, dans tout ça, enfin, je veux dire.
Non, mais Fred, Coupe du Monde. Le problème, c'est qu'il y a trois pays. Pourquoi plus Trump?
Mais tout simplement parce que la finale est à New York.
Mais non, parce que c'est de la politique, tout ça. C'est une prise de pouvoir sur le sport. C'est de la politique. C'est de l'image. C'est des tractations entre eux. Moi, ça me rend dingue.
Prise
ça
de pouvoir sur
dingue.
Le sport, il n'a pas fallu attendre Trump, hein, tu sais.
Bien sûr, mais ça continue.
La politique a toujours pris le pouvoir sur le
sport. Le sport a toujours été politique.
Et le président actuel de la FIFA, Infantino, quand tu vois ce qui s'est passé au Qatar, où je ne voudrais pas remettre deux sous dans la musique, mais je trouvais beaucoup plus choquant, je vais m'en prendre plein la gueule, comme tu en avais pris, la manière dont il s'est présenté, dont le vainqueur, le capitaine de l'équipe d'Argentine, Léo Messi, s'est présenté avec un habit traditionnel du Qatar. Je trouve ça beaucoup plus choquant que le fait de l'avoir.
T'imagines l'émir du Qatar, si ça avait été la même chose il y a 4 ans,
mais
en disant c'est l'émir du Qatar qui va remettre la Coupe du Monde.
C'est le pays organisateur.
En fait, il faut enlever la politique du football et revenir à ce que c'était avant.
Mais avant, ça a toujours été politique.
Remettons les cloisons.
Pierre Dorian, le super Moscato Show, peut-être qu'il y aura ce débat dans le SMS, Pierre.
Bonjour à tous.
Bonjour monsieur.
Pierre.
Alors on va démarrer par Mbappé, si vous nous permettez. Avant de parler
c'est votre émission, Pierre.
Qu'est-ce qu'il a dit le Fred?
Qu'il ne fallait pas traquer.
Alors, justement, on pose la question.
Mais enfin, on n'est pas encore en 16e.
Il a déjà marqué 4 buts.
Oui, d'accord, ok. Marqué 4 buts, on verra quand on sera en 16e et en 8e.
Ça y est, ils font le débat.
Et tu vois la connexion avec les autres joueurs, c'est assez impressionnant quand même.
Oui. Alors, ce qui est bien, c'est que vous faites le débat sans connaître l'intitulé du débat. C'est ça qui est magique.
Moi, je connais parce que j'ai votre feuille.
Alors, Mbappé est-il enfin un bon capitaine?
Oui.
Ah oui.
Ça y est, c'est définitif?
Ouais.
Non, mais ces déclarations sur Dembélé. Ça, c'est quelqu'un qui protège son groupe. Hein.
Tu sais, ils sont
il a changé. Je pense que les critiques, oui, on sert à ça également.
Très bien.
C'est pour toi, Pierre-Dorian, Estelle. Oui. Tu vois?
Non, mais je pense que quelque part, tu vois, il a fait évoluer, tu vois, sa communication, son état d'esprit, ce qu'il montre, etc.
Il a écouté RMC.
Il est coaché.
Voilà, il a écouté le Super Moscato Show et je le trouve bien mieux aujourd'hui.
Ensuite, alors, on va parler là pour les puristes du record de buts de Juste Fontaine dans une Coupe du Monde, 13 buts. Ce record peut-être, va être menacé à un moment de la compétition.
Il y a un match.
On se demande quel sens ça aurait, sachant que c'est pas les mêmes adversaires, c'est pas le même nombre de matchs.
Exactement.
Voilà, c'est une Coupe du Monde quand même qui est faite aussi pour ce genre de record.
Ouais, mais moi, ça m'embêterait que ce soit plus Juste Fontaine.
C'est comme si on l'avait appris à l'école. Record de buts Juste Fontaine.
La Réunion,
ça me ferait quelque chose.
Et Juste Fontaine était un type tellement adorable que voilà, c'est.
Voilà, et puis il y a un peu de tennis dans cette émission.
Bien sûr.
D'abord, Sarah Pitkowski n'est pas très contente du retour de Serena Williams. Et j'ai des bonnes nouvelles pour toi, Estelle. Arthur Fils s'estime à 100% avant Wimbledon.
Ah bah tant mieux.
Il a pas rejoint un match.
Ah bah écoutez, génial. Non mais c'est très bien. Voilà. Pierre Dorian, le super Moscato Show, c'est tout de suite et nous on se retrouve demain midi 15h sur RMC Estelle Midi et d'ici là prenez bien soin de vous. À demain.